Ma banque a compris que pour moi, chaque euro compte.
Papa, moins et moins, ça fait plus. Mais plus et plus, ça fait quoi?
Ah, c'est simple. Tiens, à la Banque Postale, un prêt auto à un taux super intéressant, plus une assurance auto, ça fait plus d'avantages et 2 mois d'assurance offerts en plus.
D'accord, papa, d'accord.
Jusqu'au 5 octobre 2013, ce sont les bons plans auto de la rentrée à la Banque Postale. Profitez d'une offre spéciale sur le prêt personnel et l'assurance auto. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euros TTC la minute.
La Banque Postale.
Banque et citoyenne. Après l'acceptation de votre prêt personnel auto par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit exclusive du prêteur. La Banque Postale SA immatriculée au RCS de Paris et à l'ORIAS en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. La Banque Postale Assurance IARD, entreprise régie par le Code des assurances.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À Copenhague, sur son rocher, la petite sirène vient de souffler ses 100 bougies, sans une ride. Tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck Ferrand nous fera des révélations sur cette fringante centenaire. En attendant, c'est en Angleterre qu'il nous entraîne pour bien commencer la semaine. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Nos voisins britanniques vivent bien plus que nous avec le passé. Pour eux, l'histoire fait partie de la vie et si je ne redoutais les jeux de mots douteux, je dirais qu'ils vivent au cœur de l'histoire, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs.
Et vous avez prévu, je crois, de pousser la porte de quelques-uns des clubs les plus anciens de Londres.
Oui, et comme si le défi n'était pas assez difficile en soi, j'ai choisi une femme pour nous guider dans ces lieux généralement réservés aux hommes. C'est Sylvie Pérez qui va nous faire profiter de sa parfaite connaissance de la capitale britannique.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je voyais vendredi soir dans un grand magasin culturel qu'au rayon DVD, un espace entier indiqué par une forêt de petits drapeaux aux couleurs de l'Union Jack était désormais consacré aux séries télé britanniques. Et je ne parle pas seulement des mythiques Chapeau Melon et Bottes de Cuir et Amicalement Vôtre ou d'émissions comiques comme Benny Hill ou Mr Bean. Les héros d'Agatha Christie, Hercule Poirot et Miss Marple y sont évidemment représentés. De même que les séries historiques comme Tudors ou bien sûr Downton Abbey. Je ne parle pas des très actuels Skins ou Misfits. Il y a aussi en Angleterre des feuilletons incroyablement anciens, Coronation Street, qui est diffusé depuis 53 ans, Doctor Who, qui a duré un quart de siècle, de 1963 à 1989. C'est d'ailleurs par égard à cette série de science-fiction qu'ont été conservées un peu partout dans Londres les fameuses police boxes, vous savez, les cabines de police qui servaient aux héros de machines à remonter le temps. Mais généralement, ces vieux feuilletons-là ne sont pas destinés à l'exportation. Nos voisins d'outre-Manche ne se trompent jamais là-dessus. Ils ont un sens aigu de la publicité, du tourisme, du folklore. Ils sont conscients de tout ce qu'il y a de si particulier dans leur culture. Et au lieu de le cacher ou d'en avoir honte, comme c'est trop souvent le cas de ce côté-ci de la Manche, au contraire, ils le cultivent, ils s'en amusent, ils en amusent le monde entier et ils ne manquent jamais d'en tirer profit. Après tout, n'est-ce pas, un de nos grands hommes a dit que l'Angleterre était une nation de commerçants. La tendresse éprouvée par l'ensemble de la planète pour l'inimitable campagne anglaise, avec ses cottages pimpants, ses fenêtres fleuries à tout petits carreaux, ses vieilles dames à dentelles, ses pubs, ses excentriques, ses concours de cricket et ses concours d'aviron à l'ancienne, sa fausse jovialité, son penchant pour les crimes pervers, cet intérêt jamais démenti est à l'origine alors de toute une série, de toute une famille de séries policières où l'on retrouve l'inspecteur Barnaby qui dans les années 2000 trouve quand même le moyen de se déplacer dans des villages qui paraissent avoir été figés en 1950, inspecteur Morse, inspecteur Lewis, inspecteur Frost, j'en passe, P.D. James a su faire des émules. Ce qu'il y a de commun à tout cela, c'est le mélange inextricable de passéisme et d'actualité, de véritable avant-gardisme en matière technologique et même sociologique, étroitement mêlé à un conservatisme inouï dès lors qu'il s'agit de traditions locales ou de coutumes plus ou moins étranges. pour comprendre cela, je crois qu'il faut avoir à l'esprit cette singularité de la culture britannique, si éloignée de l'esprit continental en général et français en particulier. En Angleterre, on ne change jamais les habitudes. On ne remplace pas les vieilles pratiques, on les adapte, on les détourne, on les utilise, on les empile. On a les anciennes habitudes et puis les nouvelles, si vous voulez. Là où nous substituons, les Anglais ajoutent. En général, ils ne remplacent pas un meuble usé par un meuble neuf, ils réadaptent le meuble ancien et lui juxtaposent quelque chose de nouveau, parfois de très nouveau d'ailleurs. Les rues portent souvent le même nom depuis des siècles, donc on n'a pas besoin, comme en France, de mettre plusieurs plaques l'une sur l'autre pour indiquer les différents noms successifs. Vous savez, on fait la même rue depuis le 16e, comme ça on est tranquille. Généralement d'ailleurs, on y circule dans le même sens. Et si la plupart des gens ont oublié pourquoi c'est ainsi, ils n'en demeurent pas moins attachés à ce que cela dure. D'où forcément un certain nombre de traditions qui à l'origine avaient sans doute leur justification, mais qui avec le temps peuvent nous paraître à nous assez saugrenues. Ça ne dérange pas les Britanniques, au contraire. Chez eux, l'originalité, pour ne pas dire l'excentricité, sont des notions tout à fait valorisées. Je voudrais vous citer quelques lignes d'André Mauroy, qui connaissait si bien l'Angleterre. « La première image que je voudrais évoquer, écrivait-il, est celle d'un très vieux pays où le temps a respecté le décor du passé. » En parcourant les comtés du sud, en voyant ses maisons anciennes, ses fenêtres aux petits carreaux encadrées de lamelles de plomb, ses cadrans dorés, ses auberges qui portent de vieux noms, aux armes du roi, aux armes de la reine, l'étoile et la jarretière, le cochon et le sifflet, le voyageur croit parfois être encore au temps de la reine Élisabeth. Ce sentiment est particulièrement fort chez le Français qui débarque en Angleterre au sortir des campagnes flamandes. Les Flandres sont malheureusement, par leur situation géographique, un des champs de bataille de l'Europe. Évidemment, André Mauroy écrivait tout ça à une époque où l'on allait en Angleterre en bateau. Il n'y avait pas Eurostar. Tant d'invasions, écrivait-il, tant d'offensives et de contre-offensives ont traversé nos villages et nos villes qu'il est rare que l'on puisse trouver chez nous toute une cité qui n'ait point changé depuis le 15 ou le 16e siècle. Il nous reste d'admirables monuments, ça et là quelques rues intactes, quelques bourgs anciens. Mais ce qui, dans nos campagnes à nous, est l'exception, devient dans le Sussex où le serait la règle. Visitez les collèges anglais, Winchester, Eton, Harrow, les petites tables de chêne, usées jusqu'à n'être plus qu'une mince lame de bois, n'ont pas été remplacées depuis plusieurs siècles, écrivait André Mauroy, qui ajoute partout, ce ne sont que gestes traditionnels, cérémonies symboliques, actes qui n'ont plus aujourd'hui d'utilité immédiate, mais que les Anglais trouvent plaisir à faire parce que ils les ont toujours fait. Dans beaucoup de paroisses, on observe l'étrange coutume du beating the bounds, le battage des limites qui, au temps du roi Alfred, quand les cartes n'existaient pas encore, servait chaque année, le jour de l'ascension dans la semaine d'érogation, à fixer les limites des villages. Le prêtre de la paroisse conduisait autour de celle-ci une procession de tous les garçons de 14 ou 15 ans, armés de rameaux verts avec lesquels ils devaient frapper les pierres qui bornaient les terres de leur village. L'objet que l'on se proposait en promenant ainsi les enfants était de créer des témoins pour l'avenir. Tout est là, finalement, à la fois des références dans le passé et des témoins pour l'avenir. Je vous propose dans quelques instants de découvrir tous ces concours étranges, ces fêtes bizarres, etc., qui se tiennent dans tel ou tel village de la campagne anglaise, en souvenir de tel ou tel événement perdu, généralement, dans la nuit des temps.
Un extrait de la bande originale de la série Chapeau melon et bottes de cuir.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec la suite de votre récit, Franck, au cœur de la campagne anglaise.
Eh oui, alors pas pour vous donner un exemple, entrons dans le vif du sujet. À Brockworth, par exemple, le dernier lundi du mois de mai, les habitants pratiquent un jeu qui nous laisse un peu pantois, mais qui se pratique là-bas depuis le début du 19e siècle. Ça s'appelle la Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake. Alors, le principe, c'est qu'on a un énorme fromage. Enfin, je dis énorme, oui, c'est une grosse tome, si vous voulez, qui peut faire penser un peu nos tomes de Savoie, réalisées à partir du lait de la vache Gloucester. Et on jette ce fromage qui va descendre sur la pente de la colline. Il fait quand même 7 livres, le fromage, hein, 3 kilos. Et demi. Et alors le but du jeu, c'est de l'attraper, bien entendu, sauf qu'il descend très vite, le fromage en question. Alors vous avez un maître de cérémonie qui donne le top là-haut, qui gueule, j'allais dire, get the cheese. Et alors voilà le fromage qui s'en va, qui peut atteindre jusqu'à 100 km/h, hein, quand même, quand il descend, au point que ça peut être dangereux, cette plaisanterie. Il y a un spectateur en 1997 qui a été blessé par le fromage, mais ça amuse les Anglais. Et j'ai envie de dire, ça amuse tout le monde, puisqu'il suffit de voir le nombre d'équipes de télévision qui chaque année sont là pour observer le C'est le genre de tradition dont on ne sait même plus tellement à quoi elles sont dues. Enfin, vous avez toujours un ou deux érudits dans les villages en question qui peuvent très bien vous expliquer d'où ça vient. Mais c'est le genre de tradition qui épate les gens parce qu'elles ont l'air absurdes et qu'en même temps, elles s'inscrivent dans une continuité, car tout est là, bien entendu. Alors, vous avez ce genre de manifestation un peu plus pacifique, si je puis dire, le jour du Shrove Tuesday, hein, c'est ce qu'on appelle, nous, le Mardi Gras. On appelle ça tout simplement en Grande-Bretagne aussi le Pancake Cake Day, parce que ce jour-là, évidemment, on fait des crêpes, hein, des pancakes avec des œufs, du beurre, enfin, vous savez. Ça, c'est assez répandu aussi sur le continent. Sauf que la plus célèbre des festivités organisées pour ce Pancake Day a lieu à Olney, dans le Buckinghamshire. Alors là, il s'agit d'une course de 415 yards, c'est-à-dire 380 mètres, qui va mettre en compétition des femmes de plus de 16 ans habillées de casquettes et de tabliers. Hein. Il y a toute une tenue, bien entendu. Alors elles doivent, tout en courant, bien entendu, lancer leurs crêpes au moins 3 fois pendant la course. Et vous avez des juges qui sont là, qui vérifient, bien entendu, qu'il y a bien eu les 3 lancers de crêpes. Ça fait partie du bon. Et la gagnante reçoit, alors c'est très prestigieux, puisqu'on reçoit un baiser du pancake bell ringer, c'est-à-dire le type qui sonne les cloches à l'église pour la circonstance, et un livre de prière de la part du curé, s'il vous plaît. L'un des lieux d'élection de toutes ces traditions britanniques, ce sont les établissements scolaires dont l'ancienneté et le respect des traditions sont considérés outre-manche comme un critère de qualité. Ça, c'est amusant parce que quand vous allez dans les établissements en Allemagne, en Angleterre, en France, en Suisse, etc., on vous parle des nouveautés, de l'équipement, un ordinateur, etc. En Angleterre, il y a aussi des ordinateurs, mais on vous parle d'abord de l'ancienneté du collège et de ses traditions. Alors, à Westminster, par exemple, depuis des siècles, une pièce est jouée chaque année en latin dans un des dortoirs du collège. Et quand un roi est couronné, les élèves ont le droit d'acclamer en latin les souverains au moment où ceux-ci pénètrent dans l'abbaye. Mais c'est un droit, c'est aussi un privilège. Hein. C'est exactement comme dans l'ancienne France. D'ailleurs, vous avez des privilèges, là encore, dont on ne sait plus toujours à quoi ils sont dus, mais qui sont très scrupuleusement observés, bien entendu. À Winchester, le seul bâtiment ancien, parce qu'on a des bâtiments dont certains remontent jusqu'au XVIe, mais le seul bâtiment neuf de l'établissement, c'est le cloître, qui a été bâti au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc en 1918-19. Mais aussitôt, à peine était-il terminé, que ce cloître est devenu le lieu d'une tradition. Et la règle, quand vous entrez dans le cloître de Winchester, c'est de vous découvrir, si vous avez un quelconque couvre-chef, en souvenir des morts de la Première Guerre mondiale, justement. Sauf que on est bientôt 100 ans après, et que on continue de le faire, évidemment. Très scrupuleusement. Les élèves le font, ils ne savent pas pourquoi ils enlèvent leur casquette. C'est comme ça. Au collège d'Eton, qui a été fondé en 1440 par le roi Henri VI, le jour le 4 juin, hein, on appelle ça le jour du fondateur, est fêté chaque année. Alors, c'est un moment très important. Il y a les fameux dîners du 4 juin qui ont lieu un peu partout et où se réunissent les Etoniens, c'est-à-dire les anciens du collège, et leur principale occupation au cours de ces réjouissances, c'est de maudire l'école rivale, celle de Harrow, vous savez. Et alors on maudit les gens d'en face, et pendant la Première Guerre mondiale, vous savez que les Allemands disaient « Gott strafe England », que Dieu punisse l'Angleterre, eh bien pour se moquer de ça, les Itoniens criaient de leur côté « Gott strafe Haro » et ça faisait rire tout le monde parce que ce sont des références traditionnelles à des habitudes tellement ancrées que pour les gens c'est tout naturel en quelque sorte. Du reste, je parle des collèges, mais l'armée du point de vue des traditions n'est pas mal non plus. Vous savez qu'en Angleterre, chaque régiment reste fidèle à des coutumes historique très forte. Il y en a un qui garde un ruban noir dans le dos en souvenir du catogan qu'il a longtemps porté. C'est, en l'occurrence, c'est les fusiliers gallois. Il y en a un autre qui a le curieux privilège de ne pas avoir besoin de se lever pour le toast au roi. Vous savez que normalement, ou à la reine. Donc normalement, on se lève pour porter un toast à la reine. Eh bien non, dans ce régiment-là, on ne le fait pas. À propos de toast, d'ailleurs, je cite à nouveau André Mauroy. Parce qu'en 1363, la compagnie des Vintner, donc les négociants en vin de la cité de Londres, reçut un jour à dîner 5 rois en même temps, eh bien aujourd'hui encore, elle pousse 5 acclamations quand est porté le toast. La compagnie est son maître, et parce qu'une seule, avec la compagnie des teinturiers, a le droit de posséder des signes sur la Tamise, ce privilège étant par ailleurs réservé à la reine, qui est seigneur des signes, dans les grandes occasions, elle sert cette compagnie des cygnes rôtis qui font leur entrée escortés par des musiciens et précédés par le gardien des cygnes, the warden of the swans. C'est tout ça est assez... Mais ce dont je vous parle a l'air très ancien, très étrange, mais c'est encore en pratique aujourd'hui, bien entendu. Ce qu'il y a de plus curieux aux yeux d'un Français, c'est que le système juridique fonctionne sur le même système, sur le même principe d'accumulation sans abrogation. Au Royaume-Uni, les lois ne s'annulent pas toujours l'une l'autre, comme en France par exemple. Elles s'empilent souvent et constituent de véritables labyrinthes où se régalent les juristes, évidemment, qui se doivent d'être en même temps des historiens du droit. Il y a comme ça plus de 4000 lois nationales, 11000 lois locales et 13000 lois dites privées qui datent d'avant 1801 et qui sont toujours applicable à l'heure où je vous parle. En Angleterre, la tradition de la loi est très importante. Les choses changent, mais très lentement, et les lois s'ajoutent les unes aux autres, précise Nigel Cawthorn, qui est l'auteur d'un ouvrage très amusant, malheureusement pas traduit en français, qui s'appelle « Les étranges lois de la vieille Angleterre ». Je vais vous donner un certain nombre d'exemples de ces étranges lois.
Un extrait de Buckingham Symphony Orchestra, les Monty Python's Flying Circus.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire de Londres et de ses clubs, dans un instant avec vous Franck, et pour l'instant c'est la dernière partie de votre récit.
Oui, alors je vous parlais de ces lois un peu bizarres, hein, évidemment, en Angleterre. Vous savez qu'on est dans le système du common law, alors qu'on a du mal nous à comprendre évidemment, parce que ce sont des logiques très différentes, et notamment tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé, ce qui amène évidemment, ce qui a amené en tout cas dans les siècles passés, l'édiction d'un certain nombre de règles invraisemblables sur tous les sujets, sur le fait d'étendre ou non du linge dans la rue, de battre les tapis, de chanter des chansons paillardes à partir de telle ou telle heure, ou d'éteindre, je cite, hein, ça c'est le Town Police Clause Act de 1847, et interdiction d'éteindre volontairement et illégalement la lumière des lampes publiques. Par exemple, il fallait le préciser tout de même. Le Metropolitan Street Act, qui lui est de 1867, interdit à toute personne vivant à moins d'un mile d'un arsenal ou d'un dépôt d'explosifs de détenir, et alors là, tenez-vous bien, on se dit, je sais pas moi, des allumettes, non, de détenir un jeu de cartes. Il doit y avoir une raison à l'origine. Le Metropolitan Police Act de 1839 punit toute personne qui tire au canon à proximité d'une habitation. Et le Outer Space Act, alors ça c'est beaucoup plus récent, en 1986, hein, là il y a quelques dizaines d'années, a interdit à tout citoyen britannique de lancer un objet dans l'espace, sous-entendu dans l'espace interstellaire, sans autorisation officielle, l'espace étant défini à ce moment-là comme incluant la Lune et les autres corps célestes. Et c'est écrit en toutes lettres dans la loi, tout de même. Il y a plus de 2000 textes qui, comme ça, ont été annulés depuis 1965 pour essayer de dépoussiérer un peu les codes qui sont littéralement engorgés, bien entendu. Certaines dispositions ne sont plus applicables depuis longtemps en raison d'un certain nombre de progrès de la vie courante. Hein. Pour vous donner une idée, il était interdit de se tenir ivre à cheval, à dos de vache, ou quand on conduisait un véhicule à vapeur. Ça, c'est écrit en toutes lettres dans le Licensing Act de 1872. Les gens qui conduisent aujourd'hui des véhicules à vapeur sont somme toute assez peu nombreux, il faut bien le dire. Et dans leur grande sagesse, les législateurs britanniques ont également accordé au juge le pouvoir d'ordonner l'usage d'une force raisonnable, je cite, pour repousser une éventuelle invasion extraterrestre. Ça fait partie de... Alors évidemment, nous, ça nous fait sourire, mais encore une fois, il faut resituer tout ça dans un ensemble, dans une continuité, dans une logique. Alors je parlais des parlementaires, enfin des législateurs. Vous savez que les règles sont très strictes au Parlement britannique. Là, on n'en finirait pas de tout le décorum qui entoure le speaker, notamment, hein, qui dirige la Chambre des communes. Chaque député qui entre ou sort dans la salle des séances, qui n'est pas un hémicycle, hein, vous savez, c'est une sorte de grande salle où les députés se tiennent face à face. On doit s'incliner devant la chaire, comme un catholique le fait devant l'autel, par exemple. Dans certaines conditions, ça dépend du type de débat, mais il n'est même pas possible de lire un discours. Vous devez le prononcer, votre discours, sans le lire. Vous ne devez pas passer entre le speaker, qui est le seul sur sa chaire, sur sa tribune, vous ne devez pas passer entre le speaker et l'orateur, qui lui reste de toute façon à sa place, puisqu'il n'y a pas de tribune pour les orateurs. Et bien, quand vous vous adressez à un de vos confrères, vous devez parler de l'honorable member, sous-entendu of parliament. Hein, tout le monde est l'honorable. Et si vous êtes avocat, vous êtes honorable et savant gentleman. Et si vous êtes officier, honorable et courageux gentleman, etc. Une personne qui est ministre ou qui, dans sa vie, est passée par une responsabilité ministérielle devient définitivement très honorable gentleman, etc. etc. Il faudrait parler de toute l'espèce de cérémonial, évidemment, qui fait que, notamment à l'ouverture d'une session, vous savez qu'on envoie les gardes de Westminster contrôler les caves du Parlement. Pourquoi ? C'est un vieux souvenir d'une explosion qui a eu lieu en 1605, le fameux attentat de Guy Fawkes. Et en souvenir de Guy Fawkes, évidemment, et d'ailleurs, ça a donné lieu à une fête qui est aujourd'hui encore est une fête populaire. Et puis, c'est la dernière précision que je vous donnerai, parce qu'il y en aurait comme ça, je pourrais tenir jusqu'à 21h ou même plus tard ce soir. Depuis 1279, il est spécifiquement précisé qu'il est interdit aux membres du Parlement de pénétrer dans l'enceinte des communes en portant une armure.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Un extrait du Royal Philharmonic Orchestra avec Rule Britannia.
Rule Britannia, que l'Angleterre règne, n'est-ce pas ? Bonjour Sylvie Pérez.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez dû traverser la Manche pour cela. Il faut dire que vous vivez, vous, à Londres, essentiellement.
Oui, absolument. Je vis à Londres, mais c'est un plaisir de venir vous voir, surtout pour parler de Londres.
Vous êtes une habituée de ces studios, puisque lorsque je suis arrivée dans cette maison, vous vous occupiez d'archéologie et vous parliez des grands sites à nos auditeurs.
Oui, j'avais des invités, j'étais de l'autre côté.
Alors voilà. Alors on a parlé, j'ai comme ça évoqué un peu rapidement un certain nombre de fêtes très folkloriques, les lois un peu étranges de nos amis britanniques, le Parlement. Évidemment, j'ai accompli l'exploit d'éviter de parler de ce qu'il y a de plus traditionnel et de plus connu, c'est-à-dire tout ce qui concerne la royauté, bien entendu, mais on a tendance en France à ne voir que la reine et le décorum, et on oublie que ce n'est que la part émergée de l'iceberg et que derrière les traditions de la famille royale, il y a surtout les traditions de tout un pays, en vérité. Hein.
Absolument, et les clubs anglais, justement. Si vous voulez aller voir les clubs anglais à Londres, il y a un endroit qui s'appelle le Club Land. Et c'est géographiquement là où sont concentrés la plupart des clubs. Et vous allez vous apercevoir que justement, ils ne sont pas très loin des palais royaux. Alors moi, ce que je vous conseillerais, ce serait de descendre...
On est dans le West End de Londres.
Oui, on est tout près de Piccadilly.
Oui, c'est ça. Alors, puisque vous connaissez bien la ville, servez-nous de guide, si vous voulez. Montrez-nous comment on fait.
Oui, alors le plus simple, ce serait peut-être de descendre à la station Green Park. Et moi, je vous recommande de descendre à Hyde Park Corner, parce que vous allez donc sortir de la rame de métro et vous allez apercevoir des décorations dans le métro, des peintures de la bataille de Waterloo. C'est des dessins d'archives qui ont été reproduits sur le carrelage du métro avec les portraits de Wellington, de Blücher, de Napoléon, des scènes de bataille. Et c'est précisément à ce moment-là que, donc après la bataille de Waterloo, que se multiplient les clubs à Londres.
Alors, ces clubs, on l'a bien compris, sont un des refuges de l'esprit de conservation et de tradition dont je parlais tout à l'heure. En même temps, non sans un certain humour, hein, bien entendu, puisque les Britanniques adorent s'amuser de leurs propres excès, de leurs propres traditions. Donc, ce sont des lieux, évidemment, tout à fait mythiques. Disons-le tout de suite, on va rentrer ensuite dans le détail, mais dans la plupart d'entre eux, en tout cas dans un grand nombre d'entre eux, les femmes ne sont pas admises. Hein.
Ça s'appelle Gentleman's Club.
Oui, c'est ça.
Encore aujourd'hui, le nom générique, c'est Gentleman's Club. Ouais. Et c'était une des fonctions, je pense, du club. C'était aussi de s'éloigner d'une vie familiale peut-être un petit peu ennuyeuse.
Alors, vous nous dites qu'ils se sont développés après la bataille de Waterloo, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en avait quand même de beaucoup plus anciens. Les tout premiers datent du règne de Jacques II, à peu près. Enfin, c'est la fin du XVIIe siècle,
disons,
c'est ça.
Oui, au XVIIe, il y a des réunions qui se font dans des tavernes, qui sont... On pense que Shakespeare se réunissait comme ça avec d'autres écrivains dans la taverne de la Sirène, Ben Jonson également. Bon, ensuite, ce sont des cercles politiques, mais les clubs avec un établissement permanent, eux apparaissent vraiment à la toute fin du XVIIe. Le plus ancien, c'est le White's, qui est créé.
Qui était très prestigieux en 1693. Hein,
Exactement, le White. Et très prestigieux, et qui est le dernier à tenir bon sur les femmes, justement.
Ah oui.
Il n'y avait pas de femmes aux Whites, ni comme membres, ni
ils
comme invités.
Ils ont été les premiers, ils seront les derniers, en quelque sorte.
Exactement, ni comme membres, ni comme invités, sauf exception faite de la reine Elisabeth II, qui a visité le club en 1991.
Ah oui, donc on lui a ouvert les portes, elle était très exceptionnelle.
Exactement. Sinon, pour la plupart, ils se sont ouverts... Peu à peu, c'est une sorte de lifting que s'offrent les clubs traditionnels, un vent de modernité qui souffle. Mais il y en a qui n'ont pas ouvert qui n'ont pas eu de membres féminins avant 2011, 2012, 2013.
Alors reprenons votre visite, si vous voulez. Nous sommes sortis, vous nous avez fait sortir à la station Hyde Park Corner, et donc on descend là. Il faut aller...
Alors là, vous apercevez les peintures de la bataille de Waterloo. C'est pas inintéressant.
Oui.
Vous sortez du métro, vous avez la plupart. Là, vous êtes au cœur de l'histoire, Franck, puisque vous avez la plupart des monuments militaires de Londres, une statue équestre de Wellington. Vous passez sous l'arche de Wellington. Là, je vous conseille de faire un petit détour vers Green Park, parce qu'il y a un monument qui est récent, qui a tout juste un an d'existence, qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais qui est intéressant de voir, qui s'appelle le Mémorial des bombardiers de la Royal Air Force. Il y a sept pilotes de 2,70
m. Ah oui, c'est immense, oui.
C'est très beau. Il y a cette très belle phrase de Périclès: Freedom is the sure possession of those alone who have the courage to defend it. C'est très beau. C'est inscrit sur le bâtiment. Alors, une fois que vous avez fait ce petit détour,
on peut peut-être traduire la liberté.
Ah oui, la liberté appartient à ceux et à ceux seulement qui ont le courage de la défendre. Vous savez que j'aime bien les citations de Périclès. Et donc, alors, ensuite, vous reprenez Constitution Hill, avec à gauche Green Park et à droite les jardins de Buckingham Palace. Puis vous empruntez The Mall. Vous savez, c'est cette avenue très, très large, en asphalte rouge.
Un peu les Champs-Élysées de Londres, si l'on peut dire, qui est rouge, en fait. Hein.
Qui est rouge. L'asphalte est rouge que pour figurer une sorte de tapis rouge, justement, et qui longe plusieurs académies royales. Vous allez jusqu'à la colonne du Duke of York. Et là, à gauche, vous montrez quelques marches et vous vous trouverez sur Pall Mall, qui est... Alors là, on arrive dans le Clubland, puisque le Clubland, c'est un territoire en L, avec Pall Mall, deux avenues, Pall Mall et Regent Street.
Voilà. Alors ces deux rues qui font comme une sorte de L,
droit,
hein, c'est
ouais.
ça, angle droit, voilà. sont bordées littéralement de tous les plus prestigieux clubs de Londres. Là, c'est vraiment... il faut un peu montrer patte blanche, évidemment.
Là, vous êtes dans la légende. Alors évidemment, si vous allez apercevoir, ce sont des hôtels particuliers, mais...
Très, très cossus, oui, bien sûr.
C'est plus près du palais... que de l'hôtel particulier avec des peintures extraordinaires. Enfin, on peut, alors, quand on n'est pas membre, on peut toujours monter les quelques marches du perron. Évidemment, il n'y a pas d'enseigne lumineuse avec
oui,
le nom
tout
du club.
Très discret, hein.
Tout ça est très discret.
Mais
alors.
Ça fait partie d'ailleurs des traditions en Angleterre, puisque quand vous allez chez un bon tailleur, par exemple, il n'y a même pas écrit tailleur sur la vitrine. Il faut connaître, il faut savoir, on sonne, on vient vous ouvrir et c'est comme si c'était un domicile privé, sauf qu'en fait, c'est un... tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut connaître pour accéder. Hein,
c'est
le principe.
C'est tout le charme aussi.
Oui, bien sûr.
Charme. Donc, bon, la visite s'arrête à la porte. Si vous n'êtes pas membre, vous ne pourrez pas rentrer. Mais enfin, au moins, vous aurez vu à travers la porte vitrée des intérieurs extraordinaires, des hauteurs de plafond fantastiques. Et donc, vous remarquerez donc que les clubs sont près des centres de pouvoir. Alors, vous avez sur Palmal, vous avez l'Athénéum au 107. Je vous donne les numéros, comme ça,
voilà,
vous trouverez.
Ça, on va noter.
Le Travelers Club au 106, le Reform Club. Tout ça, c'est des clubs vraiment mythiques. Le Reform Club au 104, le Royal Automobile Club au 89, l'Oxford and Cambridge Club au 71, et puis vous prenez St James Street à angle droit, et là vous avez le célèbre Boodles au 28, en face le Brooks, et enfin le White, qui est le premier des Gentlemen's Club. Et alors vous pouvez même continuer la promenade, puisque St James Street croise Jermyn Street, qui est la rue des tailleurs et des bottiers, et là vous allez voir une sculpture du dandy.
Du beau Brummel.
Du beau Brummel, elle est très belle cette sculpture, parce qu'elle n'est pas très haute, elle n'est pas sur un piédestal. Et justement, il est noté, il est gravé sur la sculpture, la phrase de Brummel, « To be truly elegant, one should not be noticed. » L'authentique élégant est celui qu'on ne remarque pas. Ouais. Et c'est assez logique qu'il y ait des tailleurs et des bottiers
dans le quartier.
Toujours
dans le même esprit de discrétion,
oui,
en fait.
Oui, exactement.
C'est-à-dire qu'on est très loin des critères affichés par l'aristocratie française ou continentale, où au contraire, il fallait vraiment montrer et se faire voir. En Angleterre, on reste dans une nation bourgeoise et l'extrême aristocratie britannique, c'est précisément de ne pas se montrer. Hein. C'est très subtil. Ou en tout cas de se montrer, mais sans oui, l'afficher. C'est très subtil.
Ce qui ne les empêchait pas d'être un peu tapageurs à l'intérieur.
Oui, évidemment. Oh là, oui, ça, c'est une autre histoire. On va y venir dans un instant.
Ouais.
Vous nous parlez quand même du Travelers Club, de l'Automobile Club, etc. Ce sont le nom de clubs français aussi. On a la même chose à Paris. Mais alors,
oui, mais,
sans
mais,
du tout de. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout la même ambiance. Hein.
Mais c'est surtout l'antériorité revient aux Anglais.
Oui,
ça, c'est... Il
n'y
a pas de discussion là-dessus. C'est une invention purement british.
Moi, j'ai eu la chance d'être hébergé dans un de ces clubs britanniques. C'est un beau souvenir, d'ailleurs, parce que tout ça est d'une élégance extrême. Les appartements, les suites sont très, très, très cossus. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez un butler, un maître d'hôtel par double suite. Hein, tout ça est très, très chic. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est la dimension quasi familiale et très chaleureuse qu'il peut y avoir. On n'est pas du tout reçu. Il n'y a aucune morgue. Hein, c'est pas du tout comme... On n'est pas dans un palace, on est vraiment dans quelque chose qui est presque une maison de famille. Il y a cette atmosphère-là.
Mais les Anglais n'ont pas de morgue.
Oui,
c'est ce qui est très séduisant en Angleterre et à Londres, c'est l'enthousiasme anglais. On parle de l'humour anglais, mais il n'est pas cynique. Vous voyez, donc on ne boude pas son plaisir et effectivement, dans les clubs, on est bien accueillis.
Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces clubs? Eh bien, grâce à vous, Sylvie Pérez, nous allons enfin l'apprendre dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire de Londres et de ses fameux clubs avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Sylvie Pérez, écrivain, auteur entre autres de La Scandaleuse de Périclès. Vous l'aviez d'ailleurs reçu pour ce livre.
Alors évidemment, ces clubs, vous voyez que même Frédéric Taddeï a choisi de l'intituler son émission Social Club. Cette notion de club a, on peut dire, essaimé sur la planète entière. Hein. On connaît le Sandwich Club, on connaît le Fauteuil Club, enfin, etc. Tout ça fait partie évidemment d'une culture qui au départ est britannique. Alors, il y a un club qu'on connaît très bien, évidemment, c'est, quand on a lu Le Tour du Monde en 80 jours, hein, c'est celui de Phileas Fogg, c'est le Reform Club. On est là sous notre, pour ce qui nous concerne, sous la monarchie de Juillet, au tout début du règne de Victoria, 1834 en fait. Hein.
C'est ça, et le livre commence, c'était très juste comme vision, le livre commence au Reform Club et se termine au Reform Club, puisqu'il y a ce pari de Phileas Fogg, qui fera le tour du monde en 80 jours. Et il va donc évidemment, il part sur le champ, 1000 embûches. Et lorsqu'il rentre, il se dit qu'il est un jour en retard, qu'il a perdu son pari. Il rentre chez lui plutôt que de subir l'humiliation de retourner au club. Et Passepartout vient le voir et lui rappelle que grâce au décalage horaire, ils ont gagné un jour et que donc le pari est gagné. Donc il retourne au Reform Club. Donc c'est
très... il existe toujours, hein, bien entendu. C'est l'avantage. Vous savez, moi, ça, c'est un de mes problèmes. C'est mon côté un peu esprit de l'escalier. Très souvent, je me dis, ah tiens, je vais vous montrer telle chose ou je vais vous emmener à tel endroit. Et à Paris, malheureusement, nous avons, nous, la bougeotte, qui font qu'un restaurant ne dure jamais plus de 2 ans, un magasin ne reste jamais à la même adresse, tout change toujours. En Angleterre, si vous avez aimé un fabricant de confiture en 1934, il y a toutes les chances pour qu'il soit là et qu'il vous ait gentiment attendu. Hein. Il y a cette continuité.
Il n'a pas bougé, voilà, il est resté sur Pall Mall et c'est un des clubs les plus prestigieux. Quand Henry James devient membre du Reform Club, il s'écrit en français, il dit « j'y suis, j'y reste ». Il était enchanté, il a écrit à sa sœur, à son père, enfin c'était formidable. Et quand il a habité ensuite en dehors de Londres, il avait une chambre permanente au Reform Club.
Alors voilà, on a bien compris que ces clubs peuvent servir un peu d'hôtel, si l'on peut dire. Ils servent aussi et surtout de restaurant, parce que c'est là qu'on se retrouve pour lire la presse, dans certains cas, pour boire un vieil alcool, mais aussi et peut-être surtout pour déjeuner quand même. Hein. C'est le grand moment du club, ça, aux alentours de entre 13 et 15 heures. En
fait. Et alors le Reform Club, justement, à propos du restaurant, il est intéressant parce que il a été très célèbre, entre autres, pour ses cuisines. Le premier chef du Reform Club, c'était un type extraordinaire, c'était le cuisinier le plus célèbre de Londres. Il s'appelait Alexis Soyer, et je vous laisse deviner sa nationalité.
Ah, évidemment, Franck. Alexis Soyer, on devine. Il était français, probablement.
Oui, son talent et son nom nous indiquent que c'était un jeune homme très doué, qui quitte donc la France au moment de la Révolution de juillet 1830. Il a 21 ans. Il rejoint son frère, qui est déjà cuisinier dans l'aristocratie anglaise. Il devient chef de cuisine au Reform Club. Et là, il rénove entièrement l'équipement au point que sont organisées des visites des cuisines du Reform Club. Tout ce qui s'y passe est extraordinaire. On n'a jamais vu ailleurs. Il cuisine au gaz, il cuit des plats au bain-marie, il a une broche mue à la vapeur, des réfrigérateurs refroidis à l'eau courante glacée, des fourneaux à température variable. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Et puis, il est assez théâtral, Alexis Soyer. Il porte une toque de velours rouge. Et il organise des événements fabuleux, comme par exemple au moment du couronnement de la reine Victoria, le 28 juin 1838. Il fait un petit déjeuner pour 2000 personnes. Alors on imagine le délice des viennoiseries qui étaient servies, d'autant que vous savez que c'est pas le fort des Anglais, ni non, le pain, ni jusqu'à aujourd'hui.
Contrairement à l'image qu'on en a, on peut déjeuner ou dîner brillamment à Londres, hein, quand même. Il y a très bonnes tables aujourd'hui.
Mais donc cet Alexis Soyer, il invente même des recettes. Vous pouvez aujourd'hui sur Internet vous trouvez dans les sites de recettes anglais, vous trouvez la Reform Sauce Recipe qu'on lui doit. Et il était marié à une femme qui s'appelait Elizabeth Emma Jones, qui était une fantastique dessinatrice et peintre. On l'appelait la Murillo anglaise. Et qui, malheureusement, est morte à l'âge de 28 ans, des suites d'une complication de sa grossesse. Et à partir de ce moment-là, il a été assez désespéré et il s'est tourné vers des œuvres de charité et vers un travail de... Donc, par exemple, au moment de la grande famine en Irlande, en 1847, il a été envoyé à Dublin. Il a mis en place une soupe populaire. Au moment de la guerre de Crimée, il est parti à ses propres frais, cet Alexis Soyer, donc, dont on parle, auprès des militaires pour s'occuper de l'approvisionnement des hôpitaux militaires. Il a conçu un biscuit aux légumes qui empêche le scorbut. Enfin, c'était quelqu'un de très dévoué et très inventif.
Alors évidemment, il y a tout un style dans ces clubs. C'est très cosy. Il y a toujours une grande cheminée, des canapés en cuir. Oui. On vous présente le journal qui a été souvent repassé, s'il vous plaît, pour lui donner une espèce de tenue. Hein, on ne lit pas le Times comme ça. Et puis, avec une baguette qui donne de la tenue au journal. Enfin, tout ça est très... C'est so british. Et puis, parfois, pas dans tous les clubs, mais certains, je pense à celui dont je vous parlais tout à l'heure, le Brooks, a un décor absolument sublime, hein, avec des staffs notamment absolument incroyables, des frises en bas-relief, etc. On est dans de véritables monuments historiques.
Ah oui, la plupart de ces anciens clubs sont absolument superbes. Il y a des frises peintes ou sculptées, il y a des salles voûtées. Le Brooks, c'est un des plus anciens, c'est le troisième plus ancien, il date de 1778. Et effectivement, il y avait une des pièces du Brooks, c'était très connue, elle s'appelle la Great Subscription Room. Et elle a un plafond voûté superbe, des peintures vert pistache, c'est absolument superbe. Et il y a des représentations, des aquarelles, des peintures, parce qu'évidemment, tous ces clubs attiraient les plus grands peintres, les plus grands politiciens, etc.
Pour y entrer, il faut être invité, hein, c'est le seul moyen. Et oui. pour faire partie du club, alors là, c'est carrément beaucoup plus difficile puisque c'est un système de cooptation, en fait. Il faut que plusieurs membres d'un club se réunissent pour demander que vous entriez. En fait, c'est comme ça.
Il faut être parrainé.
Avant
même de soumettre sa candidature. On est parrainé, alors ça dépend des règlements, là encore. Alors, vous parliez des règlements en première partie de l'émission. Mais il y a des liasses entières de règles, à quelle heure le dîner doit être servi, quel journal il faut lire.
La couleur qu'on n'a pas le droit de porter dans le salon.
Absolument, le nombre d'invités, les raisons qui justifieraient votre exclusion, etc. Quoique la tendance est à la diminution des règles, et qu'aujourd'hui on dit qu'en fait un bon club c'est celui où il y a deux règles. Premièrement, le membre doit payer sa cotisation. Et deuxièmement, le membre doit se comporter comme un gentleman. Si vous voulez, ça englobe l'ensemble.
Est-ce qu'il y a un côté un peu, comment dire, est-ce qu'il y a des réunions par groupe, par type de profession, des clubs de métiers, ou est-ce qu'il y a des clubs politiques, tout simplement? Est-ce qu'on doit partager les opinions des autres membres d'un même club?
Mais c'est tout le principe du club, c'est qu'on est entre soi.
Voilà,
alors, ce sont des gens qui décident de se réunir, soit parce qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt. Par exemple, le Portland Club, est un club de joueurs de cartes. Et c'est là que s'est joué, au Portland Club, la première partie de Bridge. C'était un aristocrate qui revenait de vacances en France et qui a appris à ses camarades comment jouer au Bridge. Ça peut être la même passion. Vous avez le Royal Aero Club, qui réunit des passionnés de navigation aérienne. Et l'idée de ce club a germé à 1200 mètres d'altitude lors d'un voyage en ballon. Et à peine atterri, ils ont été enregistrés le nouveau club. Des clubs de métier, le Garrick, encore aujourd'hui,
voilà,
c'est le club du théâtre, le club littéraire.
Et puis, il y a une nouvelle génération aussi. Il y a de nouveaux clubs, un nouveau style de club un peu plus démocratique, un peu plus ouvert, peut-être.
Qui dénote. Alors, le club qui a initié ce mouvement-là s'appelle le Groucho Club. C'est un club. Alors, déjà, vous allez voir qu'on se déplace un petit peu dans la ville. On n'est pas très loin, mais c'est plutôt vers Soho.
On n'est plus sur Pall Mall, là, à ce moment-là.
On va plus vers Soho. Le Groucho Club, les bâtiments aussi sont différents. Le Groucho Club, il est sur Dean Street, dans le quartier des théâtres. Et ils ont relié deux maisons. Enfin, si vous voulez, c'est complètement biscornu, donc particulièrement charmant. Il y a des pièces partout. Alors, le Groucho Club, j'ai un témoignage de première main d'un des membres et fondateurs du Groucho Club.
Oui, que vous connaissez bien.
Qui est David Lodge. Et alors lui, donc en 1985, il découvre une petite annonce qui explique qu'un petit groupe d'éditeurs et de gens des médias s'apprête à créer un club privé, un petit peu plus relax que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, ouvert aux hommes et aux femmes, et donc il cherche des gens qui seraient prêts à investir. David Lodge, il n'avait jamais été membre d'aucun club, si vous voulez, il est professeur de littérature à Birmingham, donc déjà il habite pas Londres, il roule pas sur l'or, puisqu'il faut quand même avoir pas mal d'argent pour...
Il y a une cotisation annuelle, j'imagine, hein ?
Il y a une cotisation annuelle, plus un droit d'entrée.
Alors, ah oui, voilà, oui.
C'est entre 150 et 3000 livres, c'est-à-dire entre 200 euros et...
200 euros, c'est le club vraiment pas cher.
C'est vraiment, oui.
C'est pas très très chic.
Non.
3000 livres, c'est plus embêtant parce que ça fait une grosse somme.
Bon, la plupart, le Groucho Club, je pense que c'est aux alentours de 600. Et le comte Mountbatten, on disait qu'il était membre de 16 clubs, par exemple. Il y avait des gens qui avaient les moyens d'être membre de pas mal. Bon, donc pour revenir au Groucho Club, on est en 85 là. Et David Lodge investit 1000 livres sterling dans la création de ce nouveau club, qui est donc plus détendu, si vous voulez. C'est des gens qui n'ont pas envie de se mettre en costume cravate, qui sont un peu de la même sphère intellectuelle, des gens de la presse, du cinéma, de la télévision. Voilà. Et ça a été un succès fou. Et il y a eu dans le sillage du Groucho Club un certain nombre de clubs modernes, nouvelle génération.
Je vous propose dans cet esprit-là d'entendre Serge Gainsbourg maintenant, si vous voulez, Sylvie Pérez, on se retrouve aussitôt après.
Une nuit que j'étais à me morfondre. quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Cels.
Serge Gainsbourg avec Initial BB.
On a l'impression d'y être, hein, d'être là-bas. Je voulais juste vous signaler que sur le site francferrand.com, j'ai mis aujourd'hui une photo des 150 ans d'un des célèbres clubs dont on n'a pas eu le temps de parler, là, le In and Out, qui est très très célèbre également. Et alors, les gentlemen membres du club se sont amusés à faire toute une chorégraphie dans les rues de Londres pour l'occasion, à laquelle participait, s'il vous plaît, le prince Philippe, hein, le prince consort d'Angleterre. C'était assez extraordinaire. Merci beaucoup, Sylvie Pérez. Vous étiez venue nous parler de Périclès la dernière fois. Je rappelle d'ailleurs le titre de votre roman aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle La Scandaleuse de Périclès. C'est une plongée dans l'Athènes idéale de Périclès. Eh bien aujourd'hui, c'était une plongée dans l'Athènes moderne de la reine Victoria.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
14h-15h, Franck Ferrand.
Et c'est l'heure, Franck, de votre nouveau rendez-vous, les 5 dernières minutes aux origines. On parle de la petite sirène aujourd'hui.
Et oui, cette petite sirène de Copenhague. Vous savez, nous sommes allés à Copenhague avec l'émission, avec Au cœur de l'histoire, l'année dernière. Évidemment, nous sommes allés voir la petite sirène. Pour tout vous dire, la première fois qu'on la voit, on est un peu surpris parce qu'elle est vraiment petite. Elle fait 1m25, la petite sirène de bronze sur son rocher. Elle n'en pèse pas moins 175 kilos, mais parce que justement, elle est de bronze. Elle ne laisse pas tout le monde de bronze, si je puis dire d'ailleurs, parce que vous savez qu'elle est une sorte de symbole universelle de féminité, au-delà d'être un symbole du Danemark, évidemment. Alors, cette petite sirène, figurez-vous que le 23 août dernier, on a justement célébré son 100e anniversaire, puisque la statue a été offerte à la ville de Copenhague en 1913, le 23 août 1913, par, en fait, c'était le fils du fondateur de la brasserie Carlsberg, hein, Carl Jacobsen, qui avait offert cette petite sirène. Pourquoi ? Ben parce qu'il était tombé amoureux, ce monsieur, figurez-vous. Il assistait à une performance du maître de ballet Hans Beck. Le ballet s'appelait La Petite Sirène en 1909 et la petite sirène en question, avec sa queue qui peu à peu se transforme quand même en jambe de jeune fille pour pouvoir danser, parce que sinon ce serait pas très facile. La sirène, elle était interprétée par Ellen Price. Et ce monsieur est tombé amoureux d'Ellen Price. Il a voulu l'immortaliser en quelque sorte, et il a commandé cette jolie statue. Ce qui fait que les traits que l'artiste s'appelle Edvard Eriksen, les traits qu'Eriksen a choisis pour sa petite sirène sont bien les traits d'Ellen Price, hein, c'est son visage que l'on reconnaît. Quant au corps de la petite sirène, évidemment, comme c'était une danseuse, l'artiste a préféré prendre comme modèle sa propre épouse. La statue a donc été érigée en le 23 août 1913. Alors depuis, elle a subi bien des déboires, cette petite sirène, parce qu'il faut vous dire qu'elle est quand même très exposée dans le coin du port de Copenhague où elle se trouve. Elle a été décapitée deux fois par des artistes radicaux en 1964 et 1998. Elle a eu un bras coupé en 84. Elle a été aspergée de peinture rouge, de peinture blanche. Ce sont les couleurs du drapeau danois, après tout. Et en 2003, elle a même été déboulonnée de son piédestal et tout bonnement jetée à l'eau. Ce qui, pour une sirène, après tout, n'est qu'un retour aux éléments. En 2010, on a envoyé la statue en Chine pour représenter le Danemark à l'exposition mondiale de 2010 à Shanghai. Et elle est rentrée, évidemment, dans son port. Pour tout vous dire, c'est un moulage que l'on voit aujourd'hui. Quant à l'original, il est conservé dans un lieu qu'on préfère tenir inconnu. Avec son chapeau melon, ses bottes de cuir, voici Elena Morna. Bonjour Elena.
Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, on va vous parler avec les experts Europe 1 d'une autre petite sirène qui ne laisse personne de bronze. C'est l'avis d'imposition des revenus 2012.
En effet. Oui.
Que vous avez tous dû recevoir dans vos boîtes aux lettres ou par mail, quoique là aussi, il y a eu un bug. Alors, sirène pas si petite, hein, au contraire, comment contester, rectifier une erreur ou obtenir une échéance? On en parle avec les experts Europe 1 et avec vous. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. 39,21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr, Franck.
Voilà une émission bien utile. Merci beaucoup, Elena. Nous nous retrouvons demain, Céline.
À demain, Franck.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.